Bon, c'est bon, je pense qu'on peut y aller. Bon, madame, je vais commencer, s'il vous plaît, par vous demander votre nom et puis votre date et lieu de naissance.
Voilà, mon nom, c'est prénom Marraine.
Oui.
Mon nom de famille de mon père, le nom de mon père, Sel.
Oui.
Mon nom de femme mariée, c'est Flouest. F-L-O-U-E-S-T.
Oui.
Et je suis née le 2 février 1945 à Flensburg, qui est une ville allemande à la frontière danoise, donc dans le Schleswig-Holstein, dans le grand nord de l'Allemagne.
D'accord, très bien. Est-ce que vous pouvez me dire quelque chose sur votre famille?
Sur ma famille. Je suis née à Flensburg parce que mes grands-parents vivaient à Flensburg. Mes parents, c'était des réfugiés politiques.
Oui.
Ils habitaient à Breslau.
Donc ah oui, d'accord.
Aujourd'hui la Pologne.
Oui.
Et ils s'étaient réfugiés chez mes grands-parents en 44.
Et votre père, qu'est-ce qu'il faisait à Breslau?
Mon père était ingénieur.
Oui.
Ma mère était une femme à la maison.
Oui.
Et mon père, il construisait des aéroports. Voilà. C'est quelqu'un qui... donc on a toujours eu un axe, le Danemark. J'ai de la famille qui vient du Danemark et,
oui.
et la Pologne. Et mon père, ce que j'ai apprécié, ce que j'ai appris beaucoup plus tard, c'est qu'il s'était, pendant les années cruciales, il avait plutôt construit des ponts au Danemark. Quoi.
D'accord.
Voilà.
Mais donc... Votre père était élevé plutôt à Flensburg.
Il était élevé ils sont nés tous les deux à Kiel, donc au bord de la mer Baltique. Et la famille de mon père, c'était des entrepreneurs de Hambourg.
D'accord. Et au point de vue politique.
Au point de vue politique, bon, ça c'était...
c'est une question difficile.
Non, c'est pas une question difficile, mais c'est une question qui était, mise à l'écart, quoi, pendant notre jeunesse,
oui.
Pendant ma jeunesse. Ils n'étaient pas, ni mon père, ni ma mère, ils n'étaient pas des nazis, voilà.
Non.
Ils n'étaient pas inscrits dans le parti, ils étaient... Mon père, il a essayé de, pas avec un courage immense non plus, mais enfin bon, il a essayé d'être un peu en marge de tout ça. Ma mère, j'avais fantasmé quelque chose, mais ça s'est avéré, ça c'est des fantasmes que j'étais pas la seule à avoir avec notre culpabilité allemande. J'avais imaginé, espéré, disons, que ma mère, puisqu'ils habitaient à Breslau, c'était à côté d'Auschwitz,
oui.
Que ma mère, à un moment donné, je sais pas, il y a quelque chose dans un discours qui m'a fait penser ça, que ma mère c'était, avait abrité un déserteur allemand,
oui.
Un soldat. Bon, j'ai écrit ça dans mon livre, mais en fait, c'est pas vrai.
C'est pas vrai, ça. Moi, je comprends pas cette histoire.
Oui.
D'accord. C'était un peu pour épargner votre mère ou pour...
Non, c'était... Enfin, j'avais imaginé d'être la fille d'un résistant. Voilà, bon.
D'accord.
On avait des idées comme ça. Hein. Être... ou chercher des origines juives ou chercher d'être du bon côté, quoi.
D'accord. On va revenir à ça. Et puis, du point de vue religieux, votre famille était protestante,
catholique, oui.
Protestant.
Oui.
Et pratiquant ou... comme ça
Écoutez, normalement, oui, pratiquant. Enfin, j'ai fait ma confirmation. J'ai bien aimé, peut-être que ça me vient d'ailleurs de très loin, j'aime bien les textes mystiques, quoi. Et j'ai bien aimé apprendre le catéchisme et les règles morales, quoi, du protestantisme.
D'accord.
Je crois que ça a quand même été important. J'adorais les... On chante beaucoup dans les églises protestantes. Donc la musique de Bach, tout ça dans les églises, ça me plaisait. Encore que j'ai eu une tentation quand j'avais 15 ans, je trouvais que c'était un peu austère. Et j'allais comparer comme ça avec le catholicisme, et finalement je suis resté protestant.
Ah bon? ça n'a pas marché.
Enfin, voilà, enfin, je suis allé dans les églises pour voir comment ça se passait. Différemment, je trouvais qu'on avait... c'était la question du pardon, je crois. Comme on avait beaucoup à se faire pardonner,
oui.
Je trouvais que c'était assez pratique de pouvoir se confesser et d'être pardonné. Chez les protestants,
c'est trop simple.
C'est plus simple.
Non, mais c'était trop simple chez les catholiques.
Oui.
Oui.
Voilà.
D'aller se confesser comme ça.
Mais oui, alors les protestants, oui. ils portent leur responsabilité. Et...
Mais comme un fardeau.
Comme un fardeau, voilà. Mais aussi comme une responsabilité.
D'accord, d'accord. Et qu'est-ce que vous avez fait comme étude?
Alors donc mes parents, ils ont mon père est là. Donc on a quitté Flensburg quand j'avais 8 ans. Mon père était engagé là pour construire un aéroport dans le Palatinat, donc à Zweibrücken, entre Saarbrück et Mannheim. Enfin bon.
Oui.
Donc j'ai grandi là dans cette ville.
Zweibrücken.
Oui, Zweibrücken.
Oui.
Qui était une jolie petite ville qu'on appelait la ville des roses et des chevaux, ce qui était vrai. Le centre de la ville était occupé par les chevaux et par les roses. Et puis il y avait les quatre garnisons. Il y avait des Canadiens, il y avait des Américains, il y avait des Français. Enfin, voilà.
Parce que c'était dans la zone, quelle zone d'occupation?
C'était la zone française.
Dans la zone française.
Oui.
D'accord.
Enfin, française, oui, française, américaine, là. Oui. Enfin, en tout cas, il y avait tout ça. Et là, donc, j'ai fait mon baccalauréat.
L'abitur.
Abitur.
dans le gymnasium ou...
Dans le gymnasium, oui. Et donc il y avait le gymnasium pour les langues anciennes, il y avait le gymnasium pour les langues modernes, contemporaines. Donc je n'étais pas dans les langues anciennes, j'étais dans le... Enfin voilà, il y en avait deux, donc j'étais dans la branche littéraire.
L'école s'appelait le gymnasium de
Zweibrücken.
De Zweibrücken. Il y avait un seul pour les langues anciennes.
Non, pour les langues modernes, il y avait un seul. C'était une ville qui avait 30 000 habitants à l'époque.
Et c'était un gymnasium mixte ou...
Oui, mixte. Et rétrospectivement, mais c'était très bien, quoi. C'était très bien. Parce qu'il y a eu là, deux ou trois professeurs où il y a vraiment une réelle transmission dont je me rappelle très bien. J'avais un professeur de français, une femme qui m'aimait beaucoup, qui a certainement favorisé enfin, mon goût de la langue française.
Oui.
Et j'avais une professeure, Madame Istock, qui nous apprenait donc la germanistique, allemand et philo. Et les dissertations, enfin c'est ce qu'on appelle les rédactions ici, dans les deux dernières classes avant le baccalauréat, c'est pas tout comme en France. Il n'y avait pas un cadre aussi imposant, enfin introduction, conclusion, etc. On était beaucoup plus libre. Et avec à cet âge-là, la découverte de des textes philosophiques et une conscience politique aussi à travers les textes politiques. Je me rappelle, on lisait Jaspers, on lisait des textes, c'était un peu à la mode, enfin sur la massification de la culture, enfin des choses comme ça. Et ça m'avait beaucoup influencé, et on était très très libre dans nos dissertations, j'adorais ça.
C'est de l'école de Francfort, tout ça, ou
oui, aussi, on avait, je me rappelle, on avait un livre comme ça, condensé des textes philosophiques, en trois volumes, ça s'appelait Die Fähre, enfin le le bateau là qui va d'une rive à l'autre.
Hein? Ah oui, un ferry.
Un ferry, voilà. Ouais, le ferry. Et c'était des extraits de textes philosophiques jusqu'à Adorno, oui. Hein?
Est-ce qu'on lisait Marcuse à l'époque?
Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Oui. On lisait déjà à l'école.
Voilà. À l'école même.
Là, au moment du baccalauréat, il y avait du Marcuse, il y avait du Adorno, etc. Mais c'était l'esprit de l'époque. Hein.
Oui.
Donc ma prof, elle était tout à fait à la pointe. Et après, évidemment, on a après lu beaucoup.
Non, mais souvent dans les écoles, il y a un décalage entre ce que vous faites à l'école et ce que vous lisez à l'extérieur.
Oui, oui, non, mais c'était l'impulsion venait de l'école, ça c'est tout à fait évident.
Donc vous avez passé l'abitur en quelle année?
64, oui, 64.
Et puis, vous avez continué vos études?
Alors après, j'ai eu la chance, mais vraiment c'était tout à fait, parce que bon, je ne savais pas très bien quoi faire, et mon père n'était pas sûr complètement de vouloir me payer les études. Et j'avais découvert dans un magazine un concours organisé par la télévision de Stuttgart d'apprentissage de la télévision, enfin comme ça, une année quoi, où on pouvait être ou bachelière,
voilà,
ou avoir déjà, donc de façon plus concrète, enfin déjà avoir fait une formation de caméraman ou d'autres formations, enfin qui sont plus spécifiquement de la télévision. Et moi j'avais à tout hasard, c'était un concours national, j'avais à tout hasard, j'avais envoyé mon CV, je ne sais pas pour quelle raison j'ai été prise, et j'ai été prise. Donc je suis partie après le baccalauréat, donc en septembre 64, je suis parti vivre une année à Stuttgart, dans cet environnement de télévision.
Ça a bien marché ?
C'était passionnant. Ouais. On était 25, donc de provenance très, très différente. Et on avait des profs, je vais raconter, des profs qui étaient à l'époque des rédacteurs en chef, enfin des différentes émissions, etc. Mais aussi, on faisait aussi de la fiction, j'ai des photos, j'étais habillé en Marie-Antoinette, enfin des choses, on faisait tout. Et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressé. Et je l'ai fait avec assez de succès. Ce que j'aurais voulu faire, en fait, c'est aller dans la direction, enfin, des reportages politiques sociaux.
Oui.
Et il y avait donc le professeur, Arthur Müller, il s'appelait, je me rappelle très bien, qui m'a fait venir dans son bureau et qui m'a dit, Marraine, je serais ravie que vous deveniez mon assistante, mais je serais encore plus ravie si vous revenez dans 3 ans après avoir fait des études.
Ah bah d'accord.
Et ça c'était absolument formidable.
Oui, absolument.
Voilà, donc je lui dois vraiment beaucoup. Et alors j'ai dit, je ne sais pas si mes parents voudront, etc. Et il m'a organisé à Saarbrück, parce que mes parents habitaient, c'est à 40 km de Saarbrück, donc Zweibrücken. Donc je pouvais m'inscrire à l'université de Saarbrück. Et il m'avait organisé à la télévision de Saarbrück des petites émissions qui me permettaient de gagner de l'argent de poche, quoi. Et je faisais les églises.
C'est-à-dire,
on m'envoyait chaque samedi faire un petit reportage, un mini-reportage sur une des églises de le Palatinat ou de la Sarre. Voilà.
C'était intéressant.
C'était intéressant parce que bon, j'étais toute jeune, j'avais une petite équipe avec moi, donc bon, c'était un apprentissage. Et en même temps, c'était bon d'avoir un enracinement comme ça dans un monde de travail et de l'autre côté de faire des études.
Tout à fait. Voilà.
Donc ça m'a beaucoup. Ça m'a beaucoup.
Mais vous avez étudié les églises du point de vue architectural ou la croyance des gens ou...
Non, architectural.
Architectural.
Oui. Oui. Voilà.
Et puis vous avez continué vos études alors?
Et donc j'ai fait une première tranche à Saarbrück. Et j'avais un professeur. Donc à Saarbrück, le grand avantage, c'est que c'était devenu allemand seulement depuis 1953, si ma mémoire est bonne. Avant c'était français, donc l'université avait une orientation très, très vers la France, la langue française. Et c'était la seule université où les cours, quand on faisait romanistique, donc quand on faisait étudier la littérature française, où les professeurs donnaient des cours en français.
Ouais, d'accord. Mais des professeurs allemands ou français?
Allemand. Ouais. Là, il s'appelait Straub, je me rappelle. Il était allemand, ou il était moitié allemand, moitié français, mais en tout cas, les cours étaient en français.
D'accord.
Donc, c'était pas mal. Et après, il a été muté à Fribourg. Donc, moi, j'aimais bien travailler avec lui. Et en fait, je l'ai suivi parce que je voulais rester.
Straub.
Ouais.
D'accord.
Je pense, ou Strauss, peut-être, je ne m'en rappelle plus maintenant. Bon.
Enfin,
en tout cas, je l'ai suivi et donc j'ai fait la deuxième tranche de mes études à Fribourg.
En Breisgau?
Oui, Breisgau.
Donc c'est en quelle année ça?
Très, très jolie ville.
Oui, je connais.
Oui. Alors, attendez, c'était. Donc 64-65, c'était la. 66, c'était Saarbrück. 67, 68, oui, c'est ça. Oui.
67.
67, oui, et 68, parce que moi je n'étais pas. J'étais pas à Paris, j'étais à l'hôpital, quoi. Quand il y avait les événements de 68. Hein.
Ah bon?
Ouais.
Mais on va revenir à ça tout à l'heure. Mm. Mais. Donc à Freiburg, vous avez fait une maîtrise, un doctorat?
Voilà. Donc, c'était déjà le début du mouvement
oui.
des étudiants socialistes. Hein. Voilà. Donc j'étais. C'est drôle parce que ça me semble court. Enfin, ça, à mon avis, c'est très condensé là. Donc j'étais dans les. Je militais à Fribourg avec. Avec les, enfin, l'organisation de Tutschke qui avait des groupes un peu partout en Allemagne.
L'STS, c'est ça?
Oui, l'STS.
Oui.
Et en même temps, j'avais donc pris comme sujet de mémoire Roland Barthes.
Oui.
Et je suis venu en France fin 68, enfin octobre 68, avec les deux idées en tête. Bon, la première, de voir un peu ce qui s'était passé en 68 et de trouver des groupes enfin, bon, qui restaient dans cet esprit-là.
Oui.
Et d'aller à la fac, quoi, voilà.
Pour revenir sur ce militantisme, c'était quel genre d'action militante?
Oh, qu'est-ce que c'était?
Des manifestations, des meetings, des...
Oui, des meetings, des manifestations, des on lisait Marx, hein, des groupes de discussion à partir des textes de Marx. Enfin, c'était de cet ordre-là, oui.
Parce que souvent on dit qu'en Allemagne fédérale, 67 était plus important que 68. C'est vrai?
77 ou 67?
Non, 67.
67, oui.
67,
c'est
ça
là
a démarré.
Que ça a commencé. Et à Berlin, il y avait des. Le Vietnam, c'était en 67. Hein.
La visite enfin, du char.
La visite du char, voilà. Et, oui. et il y avait des manifestations enfin, en 67 partout.
Oui.
À Francfort, à Fribourg. Oui, oui.
À quoi?
Et
c'était, donc... là, c'était vraiment l'année où il y a eu une. Pour ma génération, un début de conscience politique.
Oui, bien sûr, une prise de conscience politique.
Oui.
Et vous dites dans votre livre que vous avez vécu en communauté à ce moment-là?
À Fribourg.
Et quand vous dites en communauté, qu'est-ce que c'est exactement?
Oh ben c'était comme on partageait des appartements. Enfin,
oui.
Voilà. C'était l'esprit de l'époque. Et puis il y avait une cuisine, on faisait la cuisine ensemble et on préparait les tracts ensemble. Et, c'était enfin, l'intérieur et l'extérieur. Enfin, c'était des communautés qui étaient déjà des mini groupes d'intervention. Quoi, hein.
Oui, parce que là, dans votre livre, vous dites que ce sont des îles au milieu d'un monde pourri. Donc, je pense, enfin, la question c'est, est-ce que vivre en communauté comme ça, est-ce que c'est un geste, si vous voulez, culturel, social, ou est-ce que c'est déjà un geste politique?
Ah non, je pense, bon, peut-être tout ensemble, mais en tout cas, ce qui était inconcevable, c'est de répéter la même chose que les parents. Hein. Donc, à l'époque, on pensait... qu'il y avait plus de liberté à vivre en communauté que de ma hantise, c'était ce qu'on pouvait, je pouvais faire le Staatsexamen.
Oui.
Je me rappelle très bien. Et alors je m'étais renseigné avec Straub, là justement, on avait réfléchi et tout ça. Alors en faisant le Staatsexamen, qu'est-ce qui se passe après? Mais on devient professeur enfin, dans la forêt noire, je sais pas, dans une petite ville, etc. Et pour moi, c'est ça ce qui était absolument inconcevable. Quoi. J'avais quel âge? C'était 45, 23 ans, 24 ans, ouais.
Oui.
J'avais l'impression que ma vie ne pouvait pas se terminer là, déjà.
Une vie de fonctionnaire.
Oui, voilà. Bon. Et donc, l'idée de la communauté, c'était justement, enfin, on avait l'impression de commencer une autre vie, hein, en faisant...
Et donc, vous ne vouliez pas répéter le schéma familial de vos parents?
Oui.
Parce qu'à ce moment-là, comment étaient vos rapports avec les parents?
Le rapport n'était pas du tout mauvais, mais je trouvais que c'était... comment vous dire? Moi, je trouve que c'était vraiment des cellules, chacun pour soi. Bon, c'était comme les familles allemandes, on écoutait beaucoup de la musique, c'était très chaleureux. Mais enfin, chacun cultivait son petit jardin. Si vous voulez, il n'y avait pas une énergie vitale très grande. Moi, en fait, ce que je cherchais, c'était probablement une plus grande énergie.
Et toujours cette silence sur la période de la guerre?
Oui, enfin, ça a changé plus tard, là, quand je suis venu en... C'était vraiment un abcès. Moi, après, je me rappelais, enfin, des gens qui venaient... Mes parents, ça allait apparemment, mais enfin, bon, les gens... J'avais un malaise, parfois, des parents... Enfin, des parents, par exemple, d'un ami. Pour moi, c'était un souvenir très traumatisant que je trouvais... Quand il parlait, moi, je sentais bien que c'était des anciens nazis. Et lui a dû le sentir aussi. Il s'est suicidé, d'ailleurs. Non.
Qui ça, pardon?
Mon premier amour.
Oui.
Donc, mes parents fréquentaient ses parents.
Oui.
Et quand le père parlait, ça me mettait très, très mal à l'aise, parce que je, obscurément, enfin, je sentais que c'était des propos nazis, quoi.
Oui, oui.
Et lui, bon, c'était un garçon très, très malheureux. Qui s'est suicidé 2 heures après. Enfin, bon,
voilà. Ouais.
C'était vraiment quelque chose qui, dans les familles, était irrespirable. Quoi. C'était à partir du moment où on a compris la monstruosité de la chose. Quoi. Bon.
Et ce mouvement de protestation en 67, c'était en partie pour... critiquer la politique et de la génération des parents, c'est ça?
C'est plus compliqué. Enfin bon,
sans doute.
Non, mais parce que critiquer, ça veut dire avoir uniquement un discours raisonnable, etc. Enfin, ou rationalisé, etc. C'était pas le cas. C'était viscéral.
Oui.
C'était viscéral. C'était bon, plus jamais ça. Je me rappelle, il y avait ma première manifestation. Alors, je sais pas, en 66 peut-être, bon. C'était, il y avait Kissinger à l'époque qui était notre chancelier, Henry Kissinger.
Oui.
Et qui était parti là du Baden-Württemberg, etc., qui faisait une visite à Zweibrücken, une petite ville, et où on était, enfin, je sais pas, peut-être 2-3 copains qui avaient un peu, qui cherchaient un peu. Les arguments politiques, il est venu, enfin tout était bien, enfin il est reçu par le maire, il y avait des fleurs, il y avait de la musique, etc. Et puis ce type-là, bon, c'était un ancien nazi. Hein. Donc on est allé dans notre petit village en première ligne et on avait crié ici Kissinger ist ein Faschist.
Voilà. Oui.
Et je trouvais que c'était très libérateur. Donc enfin bon, je me suis mis sur cette voie qui était libérateur pour moi. Libératrice pour moi, voilà.
D'accord.
Voilà, et ça a commencé comme ça par des... Ça veut dire, c'est pas complètement... On sentait un carcan, donc, familial. Ce carcan familial, il était plombé par un silence. Et les gens, ils voulaient plus... Enfin, les parents, ils voulaient plus... s'engager dans quoi que ce soit. C'était donc bon, c'était l'époque de voilà, l'Allemagne et le miracle allemand. Donc on va vers un plus de richesse. Enfin bon, les préoccupations, elles étaient de cet ordre-là. Et en même temps, on sentait que la moitié de la population a eu tout à fait d'autres fonctions
ouais.
quand ils étaient plus jeunes, quoi, voilà.
D'accord.
C'était un climat atroce. En plus, alors bon, il y avait la guerre du Vietnam, on était en Allemagne peut-être doublement concernés, parce que vous connaissez le livre de Mitscherlich sur le deuil impossible.
Je ne sais pas.
Alexander Mitscherlich, c'est un psychanalyste.
Oui.
Et il avait écrit, enfin c'était un ami d'ailleurs de Marcuse.
Oui.
Il avait écrit un livre qui était pour nous à l'époque assez déterminant. Enfin, ça s'appelait Le deuil impossible.
Oui, je vais chercher ça. Oui.
Où il explique que après la guerre, donc quand l'idéal nazi et Hitler était tombé en ruine, les Allemands, au lieu, ce qui a été fait depuis, mais au lieu de faire un travail de conscience de ce qu'ils ont été et de leur faute, enfin bon. Bon ils ont eu une identification immédiate avec les Américains, parce que moi je me rappelle quand j'étais petite, enfin bon, la présence des Américains, bon évidemment c'était les libérateurs, mais c'était aussi des gens qui avaient des cigarettes, des Milky Way, des voitures, qui étaient un modèle de richesse, et tout le monde, enfin les Allemands se calquaient complètement sur le modèle américain.
Ouais.
Donc pour Mitscherlich, donc le deuil était impossible, parce que pour le deuil il faut avoir une phase un peu de down et de désespoir. Alors quand on remplace un idéal par un autre immédiatement, mais on est un tout petit peu on a manqué la maturité, quoi. Voilà.
On fait pas le travail de du, mémoire de,
du deuil.
Du deuil, oui. Ouais. D'accord. Mm. Et quand vous avez milité à Zweibrücken ou à Saarbrücken ou à Freiburg, est-ce que vous avez eu des copains en particulier? Parce que nous, par exemple, on travaille sur l'Allemagne, on essaie de reconstruire les réseaux un peu. Est-ce qu'il y a des noms qui vous vient à l'esprit?
Oh là là. Il y avait à Fribourg, j'ai plus de nom. Ben, il y a, en plus, vraiment, j'ai une mauvaise mémoire. À Francfort, parce qu'on allait les réunions importantes pour
oui.
Se passer à Francfort.
Oh, d'accord.
Et là, bon, il y avait par exemple Klaus Thebeleit, bon, qui a écrit ce livre formidable sur les fantasmes d'hommes, un sociologue, bon, qui était un personnage important dans le STS. Il y avait, comment il s'appelait oui, Kadi Wolf, qui a maintenant sa maison d'édition.
Oui.
Il y avait. Comment ça s'appelait, Andrés qui a écrit un livre sur Adorno qui était
un livre sur
Adorno.
Adorno, oui.
Oui. Donc c'était un peu les intellectuels du mouvement.
Oui. D'accord.
On rencontrait là. Il y avait aussi Brigitte Heinrich, voilà, qui était donc après engagée avec la bande à Bader, qui a été en prison, qui est morte. Bon, il y a. À cette époque-là, bon, il n'y avait pas encore d'Annie, après il y avait d'Annie.
Oui, bien sûr.
bon, puis il y avait une réunion, Dutschke était là. Et puis il y a eu une réunion qui était importante pour moi, où on allait à Francfort, donc notre groupe là de Fribourg, ou un certain nombre. Et ça se passait à Francfort, oui, et il y a eu des leaders, disons, de 68 en France, qui était invité pour raconter, pour nous raconter ce qui s'était passé en 68.
C'était quel moment?
Je pense que ça a dû être... il faut que je demande à mon copain Jean-Marcel
Bougrou. Après mai, juin.
Oui, en juin, enfin, quelque chose comme en ça, juin. Je pense. Ouais, ouais. Ou tout début septembre, enfin bon, quelque chose de cet ordre-là.
Oui.
Et là, il y avait bon, un grand ami de Jean-Marc qui est intervenu, qui s'appelle Jean-Marcel Bougrou, qui était... qui a fait le journal Action.
Oui, oui. Voilà.
Et qui nous a parlé donc des différents courants, etc., 68. Et je me rappelle, je suis allé le voir après la conférence, et on a discuté avec des copains allemands, etc. Et il disait, mais, qui disait, Marine, tu fais romanistique, etc., tu devrais partir à Paris, voir. Et Jean-Marcel m'a donné son numéro de téléphone, son adresse, et ça c'était mon premier contact à Paris. Donc quand je suis arrivé, je crois en octobre, je l'ai contacté et...
Bougrou,
ouais.
Oui, oui.
Et à travers lui, donc j'ai connu tout de suite, enfin, Guy Hockenheim, Henri Weber, enfin bon, tous ces les chefs là de,
oui.
des mouvements en France. Voilà, et mon deuxième contact, parce que je travaillais déjà, alors je ne sais même pas pourquoi, j'avais un contact avec les éditions Zurkamp en Allemagne, et qui avait pris une option, si ma mémoire est bonne, sur un livre que André Glucksmann avait publié en 67, que j'avais lu, qui s'appelle « Le discours de la guerre ».
Oui.
Et qui m'ont chargé plus ou moins de contacter Glucksmann pour une éventuelle traduction.
Et vous l'avez contacté?
Oui, je l'ai contacté.
Il était comment à l'époque? Parce qu'il a changé d'avis depuis.
Il était très beau.
Ah bon? Tant mieux.
Voilà, c'était un très bon contact. Il était très beau, il habitait la Faubourg Saint-Antoine. Et puis on a mis en place, c'est pas moi qui l'a traduit, j'aurais pas été capable, mais avec, je crois, on a fait un peu collectivement, enfin voilà, en tout cas la traduction.
De son livre sur la guerre.
Sur la guerre, oui.
Oui.
Sur Machiavel.
Et donc, vous vous êtes inscrit en faculté ou
oui, en continuité d'études? Oui,
à la Sorbonne,
oui.
Oui, pour faire quoi exactement? Un doctorat ou...
il fallait, alors je ne me rappelle plus très bien, il fallait des équivalences d'abord pour...
Oui.
Parce que ce n'était pas assez, enfin, pour avoir l'autorisation, enfin, de faire des études en français, donc je fais des équivalences. Et après, bon, j'étais inscrite à la Sorbonne, mais comme j'avais, donc mes petits copains intellectuels, j'ai assez vite compris. Donc j'ai fait un cursus à la Sorbonne avec le COF, enfin des gens... Mais j'allais surtout voir les cours de Roland Barthes. Et après, il y a...
Qui était où?
Qui était rue de Tournon.
Et toujours à la Sorbonne
C'était, lui, c'était l'école pratique des autres études.
Ah ouais, d'accord. D'accord.
Et puis il y a eu la création de Vincennes.
Oui, exactement.
De l'université de Vincennes. Donc j'ai fait transférer mon dossier, donc j'étais inscrite à Vincennes. Je me suis inscrite à Vincennes. Et là, c'était le lieu idéal de mélanger
oui, bien sûr.
La politique, quoi. Ils étaient tous là.
Et vous avez travaillé avec un prof en particulier, Vincent?
Alors, je suis resté avec Roland Barthes, mais j'ai suivi les cours de Deleuze, enfin Lacan, enfin Foucault, tout ce que je pouvais. C'était à l'époque, c'était assez riche.
Oui, bien sûr. Et puis, en ce qui concerne la vie militante, parmi tous ces mouvements, toutes ces tendances. Vous avez eu une préférence?
Ah oui, d'abord, je suis devenu maoïste.
Oui. Et comment ça exactement?
Bah, écoutez, je ne sais pas si c'était très... Bon, ça se passe toujours aussi comme ça. Il ne faut pas croire que les gens, quand ils sont jeunes, ils ont un discernement...
Non.
Voilà comment ça s'est passé. Donc mes amis, donc j'étais devenu très ami avec André et avec Robert Linhart aussi, enfin voilà, les gens qui étaient donc dans le...
UGCML
chez les Mao, quoi, la GP.
Parce que c'était fait chez le GP à ce moment-là.
Oui.
Oui.
C'était la GP. Et comme j'étais quand même étrangère, et ça se voyait...
Ça se voyait.
Oui. Parce qu'ils m'ont toujours dit que ça se voyait, parce que en Allemagne, les femmes étaient plus libres, je pense. Hein.
Ah bon?
Oui. Parce que ici, les militantes, dans les groupes maoïstes ou trotskistes, etc., c'est venu après hein, qu'on parlait de la différence sexuelle, etc., mais elles étaient militantes sur le mode masculin, complètement. Et moi, c'était pas tellement mon genre, quoi. Je me suis fait critiquer, d'ailleurs, j'ai dû faire des autocritiques parce que je mettais du rouge à lèvres ou parce que je mettais des décolletés. Enfin, en Allemagne, par exemple, quand on était féministe, on ne mettait pas de soutien-gorge à l'époque.
D'accord. Mais... Donc c'est les Français qui mettaient le rouge à lèvres.
Non. C'était en France, c'était polymilitante, c'était très mal vu.
Parce que bien sûr, il était question à l'époque à la fois de révolution politique et de révolution sexuelle, culturelle.
Ouais.
Donc pour vous, quelle était votre approche sur la question sexuelle et culturelle?
Moi, je pensais que les Allemands étaient en avance. Parce qu'il y a eu ce mouvement anti-autoritaire,
oui, vous pouvez dire,
dans le terre aussi, bien sûr, c'est parti de là.
Oui.
Mais il y avait une vie en communauté, et puis les, je pense, les dans les communautés, c'est vrai que les mœurs étaient assez, assez libres.
Oui.
En France, il n'y a pas eu de communauté. Enfin, il y en a eu une ou deux, mais pas de façon significative.
Pas à ce moment-là. Non. Plus tard, peut-être, un peu.
Mais nous, on en a fait une après, de femmes.
Oui.
Mais c'était plus tard, c'était en 74.
Où ça?
Dans le, à côté de où il y a Libération maintenant.
Ah, oh, d'accord.
Dans le 3e arrondissement. Non, mais bon, j'étais donc un peu en marge parce que j'avais pas vécu l'avant 68 oui. aussi. Et les maoïstes, ça me convenait. Bon, parce que j'avais des amis qui étaient maoïstes, donc c'était par affinité. Deux, qu'ils avaient décidé à ce moment-là, et sur le plan militant, parce qu'ils ont créé le Secours Rouge. Le Secours Rouge, c'était oui. ce qu'ils appelaient l'élargissement démocratique
oui.
de la gauche prolétarienne. Donc il y avait, Dans tous les quartiers, les gens qui ne voulaient pas être maoïstes, saliniens, etc., pouvaient faire un travail démocratique quoi, dans leur quartier. Et moi, j'étais dans le Secours Rouge du 5e arrondissement, c'est là que je vivais à l'époque. Et on était, donc, on avait une double appartenance. On allait aux réunions de la gauche prolétarienne, donc on avait des consignes précises, mais en même temps, on était un peu mêlé à la population de notre quartier.
Et donc, vous avez défendu quelle cause? C'était la question des questions d'immigrés ou la question de...
Oui, là, par exemple, il y avait Saint-Ménard, là, ça s'appelle, il y avait des foyers immigrés, enfin, c'est à gauche et à droite, la rue Mouffetard, il y avait plusieurs foyers d'immigrés, donc on est intervenu. Pour cela, on est intervenu parce que la gare d'Austerlitz faisait un tout petit peu partie de notre rayon. Donc on a fait des interventions, comment on peut dire, enfin des actions
oui.
avec les cheminots
oui.
de la gare d'Austerlitz. Et moi j'étais toujours utiliser ou proposer un peu comme comment dire une informatrice quoi disons voilà. comme je ressemblais oui, un peu à une étrangère,
oui.
Donc c'était pratique. C'est-à-dire les gens ne pensaient pas que j'étais militante.
Ah ouais, d'accord.
Je me mettais une petite fourrure ou un truc comme ça. Donc, j'avais pas le look.
Pas le look de militant de gauche.
Voilà. Et puis ils ont créé donc ce journal J'accuse.
Oui.
Donc sur le plan militant, c'était le Secours Rouge. Sur le plan de la presse, donc il y avait le journal de l'AGP.
Oui. C'était ça... plus le cri du peuple, c'était...
Non, c'était juste après, oui. Comment ça s'appelait, le journal de l'AGP?
Oui, ça s'appelle J'accuse. Oui, ça s'appelle... À un moment.
Non, non. Après, il y avait les deux, il y avait le journal militant très dur, quoi. Qui s'appelait La Cause du Peuple.
Ah, La Cause du Peuple, oui, pardon, La Cause du Peuple.
Voilà, qui s'appelait La Cause du Peuple. Et puis, il y avait un journal qui était donc dans la mouvance de l'élargissement démocratique, qui s'appelait J'accuse.
Oui.
Alors, dans ce journal, il y avait... c'était un journal assez grand public, où il y a... Parce que bon, La Cause du Peuple, c'était un journal théorique, enfin, avec des positions très tranchées, très, très militants. Et J'accuse, donc ils avaient réussi à intéresser des journalistes, par exemple du Nouvel Observatoire ou du Monde, etc.,
oui.
Qui trouvaient que leur journal ne rendait pas assez compte des luttes.
D'accord.
Et ça, c'était un très bon journal. Bon, par exemple, il y avait la... Foucault, par exemple, écrivait dedans. Bon, Glucksmann était rédacteur en chef. Il y avait François Spoeb. Il y avait Michel Manceau qui venait du Nouvel Observateur. Donc, c'était des belles signatures.
Oui.
Mais c'était dans l'esprit que les intellectuels descendent de leur piédestal et qu'ils aillent voir ce qui se passe dans ce qui concerne Foucault dans les prisons. Nous, on avait fait, comment ça s'appelait, là, le textile qui était menacé dans la Moselle, quoi. Qui maintenant a évidemment complètement disparu. Enfin bon. Oui, Cossack, voilà.
Oui.
Donc, il y avait le scandale du Juin français. Là, c'était un peu l'époque des séquestrations. Voilà, donc il y avait un peu un détachement militaire, entre guillemets, de la cause du peuple qui faisait les actions, et nous, on était les passeurs.
Et quand vous dites « nous », à part Glucksmann, c'était qui?
Là, des noms que j'ai donnés, là, par exemple, Francis Webb, Michel Manceau.
Ah oui, d'accord.
Et d'autres, enfin, Foucault, voilà, enfin, donc on était...
D'accord.
Dans cette... Et ce qui d'ailleurs bon, a donné un peu l'impulsion après pour Libération.
D'accord, je comprends. Et est-ce que vous avez gardé vos contacts avec l'Allemagne en ce moment, les militants en Allemagne?
Oui, parce qu'en fait c'était ma fonction, a toujours un peu été celle-là.
De passeur.
Oui, passeuse. Si
de passeuse, oui, pardon.
Donc, évidemment, oui, j'avais des contacts. Bon, j'allais régulièrement à Berlin, à Francfort. J'allais aussi accompagner les amis intellectuels français pour contacter, enfin, et pour prendre contact et pour discuter avec les militants allemands, les hommes et puis les femmes aussi. Hein. Donc ça c'était, il y avait à ce moment-là une très grande, des interférences quoi, qui étaient fortes.
Et, oui.
Ouais.
Parce que vous parlez dans votre livre de votre contact avec Andreas Bader et Ulrike Meinhof.
Oui. Bon, c'était par exemple les réunions là à Francfort.
Oui.
Et, bon, ils y étaient quoi, c'est-à-dire c'était des militants comme, enfin, des étudiants engagés comme les autres. Hein. Bon. Et après, il y a eu en 68, il y a eu l'incendie, enfin, du supermarché.
Oui.
Qui était leur action pour protester contre la société de consommation. Où il y a eu des dégâts matériels. Depuis, ils étaient On est cherché, quoi. J'étais recherché par la police à partir de ce moment-là.
D'accord.
Et nous, en France, donc en 69-70, on vivait dans une toute petite communauté. Enfin, on était trois.
Oui.
Dans le 5e, rue Monge, avec Jean-Marcel Bougereau, justement, qui... où, alors, intellectuellement, on s'est un peu séparés, parce que lui, il était resté dans l'action, et après, il était plus syndicaliste que moi, donc il a fait les cahiers de mai, etc. Et puis, moi, je m'étais plus approché de Glucksmann et de... je me rappelle, j'avais fait une interview avec Sartre, parce que la gauche prolétarienne, il avait besoin d'argent.
Oui.
Et le Spiegel était d'accord pour payer très cher un entretien avec Sartre. Enfin, je pensais à ça tout à l'heure parce que je l'ai fait et j'étais très très fier de moi, évidemment. Et après, quand je suis rentré, j'ai vérifié et la belle machine à enregistrer n'avait pas marché.
Oh,
alors ça, c'était absolument une catastrophe. Alors,
oui.
Il était adorable, je l'ai appelé, j'ai dit, écoutez, excuse-moi, j'ai complètement foiré, etc. Tu sais, fais rien, on va refaire ça. Et moi, je...
Oui.
Voilà. Donc, à tous les niveaux, on essayait de mettre à profit un peu les relations franco-allemandes. Et donc, on avait cette... Jean-Marcel et André, d'ailleurs, Glucksmann aussi, ils parlent très très bien l'allemand. Et la rue Mange, où il y avait aussi un camarade philosophe allemand qui habitait là, donc on était trois. Et c'était devenu, alors pour les militants français, aller en Allemagne et loger dans une communauté, ça posait aucun problème parce qu'il y avait beaucoup de place.
Oui.
En France, c'était vraiment un problème là, c'est-à-dire les gens vivaient dans deux pièces, enfin nous on avait trois minuscules.
Oui.
Et pour accueillir les amis allemands, c'était beaucoup plus difficile. Mais enfin, en tout cas, notre petite structure était un peu désignée comme le contact possible. En France, à Paris,
oui.
Où tout le monde parlait allemand, on était d'accord pour rajouter un matelas, et voilà. Et Andreas et Gudrun sont venus nous contacter. Et bon, bah, vous connaissez, donc on a essayé de leur trouver un logement, c'était l'appartement de Régis Debray.
Ah oui.
Et ils étaient trois, donc Gudrun, Andreas et un troisième, Thorvald Proll, et qui à ce moment-là, là, pendant ce mois, enfin je pense à peu près, ou deux mois qu'ils ont vécu à Paris, a décidé de se choisir un autre destin que celui de... ce qu'on appelait la bande abadère, la fraction armée rouge.
Oui. Et pourquoi?
Donc il les a quittés. Donc, c'était certainement une influence française parce que il y avait à Paris à ce moment-là, bon, il y avait les groupuscules très sectaires. Hein. Il y en avait de plus en plus avec des divisions, des scissions, etc., etc. Mais il y avait donc quand même un des grands inspirateurs de 68, c'était Guy Debord et les situationnistes, et Vanegem, etc. Et donc le troisième là-dedans, Thorvald, il a commencé à lire des textes des situationnistes quand il était ici à Paris et il a trouvé que c'était sa voix. Enfin, je veux dire,
lequel, le troisième?
Le troisième, là, qui les a quittés, là. Donc il restait Gudrun et Andreas qui, à partir de Paris, sont partis à Rome pour prendre les contacts avec les brigades rouges.
Et pourquoi pensez-vous qu'ils ont pris cette direction?
D'engager la lutte armée?
Oui, là, vers la lutte armée.
Pour des raisons paranoïaques, je pense.
Non, mais sérieusement.
Non, mais je suis très sérieux.
D'accord.
Il y a eu des... Parce que, bon, en fait... Bon, lui, il était très mégalo, hein, Bader.
Oui.
En fait, il voulait organiser la lutte armée en Europe, quoi. Bon. Donc,
oui.
Ils avaient pris contact avec les brigades rouges, ils avaient pris contact ici avec les maoïstes, qui avaient, ce détachement un peu militaire, là, les nouveaux partisans, hein, ça s'appelait.
Oui.
Et en France, ça n'a pas marché. Grâce à la présence des intellectuels, Foucault, etc., qui était un peu, qui était très respecté, qui était engagé, et qui, quand il y avait des orientations à prendre, la direction de l'AGP, parce que, enfin Sartre aussi, je veux dire, ils étaient, du coup, avec l'AGP, avec les maoïstes, on leur demandait conseil. Hein,
oui.
Voilà. Et donc ils ont tous, enfin Foucault en tout cas, enfin bon Sartre il a fait des choses après, hein, il est allé à Stammheim, etc.
Oui, oui.
Foucault aussi, il est allé à Berlin protester, et à Heidelberg, pour protester contre les conditions de détention.
Hein. À un moment, quand Sartre est allé en Allemagne, il a défendu la violence, non?
Il était sur les mêmes positions que Genet.
Oui, qui était ouais. Lesquelles?
Jean Genet qui avait fait un éditorial dans Le Monde,
oui.
Où il justifiait parfaitement la violence.
D'accord. Parce que j'ai parlé par exemple à Olivier Rollin qui était dans ses nouveaux partisans ou
ouais.
Nouvelle Résistance.
Ouais, 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 ouais.
Et lui, il raconte, il m'a donné un article qu'il avait écrit sous ouais. un autre nom, qui explique que les Français, même ceux de l'AGP, n'ont pas fait de la violence pour un certain nombre de raisons, oui. y compris le fait qu'ils étaient des normaliens, des philosophes, et les philosophes normaliens ne faisaient pas de violence.
Mais je vous dis à peu près la même chose, sauf que
oui.
les philosophes peuvent aussi perdre la tête, quoi.
Hein? Bon, exactement, c'est pas, vous n'avez pas perdu la tête, c'est ça.
En tout cas, non, il y a eu discussion s'il fallait s'engager dans la lutte armée ou pas. Il y avait à l'intérieur de la gauche prolétarienne, il y avait des partisans de la lutte armée qui voulaient faire comme la bande à Bader.
Oui.
Mais il y avait une majorité de philosophes et à l'intérieur de la gauche prolétarienne et à l'extérieur, parce que Foucault en faisait pas partie, etc. Enfin bon, qui étaient
oui.
un peu les,
oui.
les parrains, hein, très respectés. Je me rappelle, la phrase était que quand il y a action militaire, elle doit refléter la volonté du peuple.
Oui.
Bon.
Et donc vous aviez conscience que
donc c'était pas
le peuple n'était pas pour la violence, ne vous soutiendrait pas.
Tant qu'on a décidé qu'il n'y aura pas
oui.
Une lutte armée européenne orchestrée par la fraction armée rouge allemande. Bon.
Oui.
Donc ça, c'était très net. Enfin, les actions qui ont été menées, on ne peut pas dire que ce n'était pas violent, parce qu'une séquestration, c'est quand même aussi... Enfin, bon, mais c'était dans un contexte, et ça, c'était probablement vraiment la différence... intrinsèque, disons, entre les Allemands et les Français. C'est-à-dire, en France, on pensait à ce moment-là, et puis il y a eu une grève générale quand même en 68,
oui.
on pensait en général, les militants, qu'on pouvait faire confiance au peuple. Hein. C'est-à-dire, c'est un peuple qui avait résisté au nazisme, etc. En Allemagne, on pensait plutôt qu'on ne pouvait pas du tout faire confiance au peuple, hein, à cause de l'histoire.
Oui.
Et aussi, je me rappelle, j'avais écrit un truc à l'époque, bon, quand Helmut Schmidt était chancelier, nous avons eu la chance d'avoir eu en Allemagne deux ou trois chanceliers. Enfin, Willy Brandt était exemplaire, et Helmut Schmidt aussi, qui étaient plus éclairés que
oui.
le peuple. Hein. C'est-à-dire, ils ont pris des décisions, Willy Brandt, il a fait ce geste symbolique en s'agenouillant à Varsovie.
Oui.
Dans les discours de Helmut Schmidt, c'était beaucoup plus éclairé que la majorité du peuple allemand. Donc il n'y a pas eu de solidarité du peuple allemand avec la bande à Bader. Il n'y en a pas eu. Enfin, ponctuellement, quelques ouvriers. Mais bon.
Ouais, d'accord.
Tant qu'on pouvait. C'était, c'était donc une lutte armée qui était séparée du peuple.
Mais eux, ils étaient conscients que le peuple ne les suivait pas et qu'il fallait être en sorte, en quelque sorte,
et
une avant-garde. Ou...
Oui, oui, c'est ça. Ils pensaient plus ils faisaient de la surenchère dans la violence, plus ils allaient radicaliser le peuple. Bon, grosso modo. Hein.
Et donc il y avait quand même certaines personnes dans l'AGP qui étaient pour la violence sur ce modèle-là,
mais
qui ont été mises en minorité ou...
Absolument.
Et à ce moment-là, ils se sont tués
Ils
ou...
se sont pliés, mais c'était déjà un peu... l'AGP a été dissoute en 1974, je crois, mais enfin bon, c'était quand même déjà assez bancal. Deux ans avant, quoi, donc...
Et vous avez un souvenir des luttes à l'IP?
Ah oui, très bien. Donc, ce qui me concerne, donc, il y avait, donc, créé par des Mao, toujours, dans le registre où on pensait que c'était le mien, donc genre passeuse, là.
Oui.
Et ils avaient créé une agence de presse Libération, qui était parallèle à l'agence presse France.
Oui.
L'AFP, France Presse, et qui était installé rue de Bretagne.
Oui.
Et on était là, des militants qui tous les jours publiaient un petit bulletin. Donc alors en France, ça voulait dire que on avait les informations des militants dans les différentes usines ou les paysans, ou des quartiers, etc. Et on publiait donc tout ce qui reflétait des luttes qui se passaient en France. Et on avait des contacts avec l'étranger, et moi notamment avec l'Allemagne, pour publier dans ce bulletin des manifestations d'étudiants ou de grèves, etc., qui se passaient en Allemagne. Et ça, ça a duré pendant deux ans. Donc ces bulletins, on les distribuait dans les différentes rédactions.
Oui.
Et c'était assez apprécié. Enfin, les journalistes se sont rendus compte en effet que qu'il y avait des censures ou mini censures, etc. pour parler de ce qui se passe à la base. Et cette agence était la base du journal Libération.
Oui, bien sûr.
Voilà. Donc il y avait
donc vous avez travaillé là-dedans.
Oui, j'ai travaillé là-dedans.
À la fois dans l'APL et dans Libération.
Voilà.
D'accord.
Donc il y avait une partie des journalistes. Enfin bon, je ne sais pas si on était journalistes. Enfin en tout cas des gens qui faisaient ce travail-là. Donc c'était essentiellement des Mao et c'était pas avec Jean-Claude Vernier. Donc il y avait Sartre. Donc cette idée de créer un journal, Libération, en élargissant le cercle purement Mao à une tendance qui était un peu ce qu'on appelait à l'époque Vive la Révolution, VLR.
Ah oui, d'accord.
Donc Philippe Davy, enfin la vie quotidienne, plutôt la révolution culturelle. Hein, voilà. Donc il y avait ce mix de révolution maoïste politique et la révolution culturelle qui était un des composantes. Une des composantes des événements de 68. Et c'est ça ce qui a donné Libération. Et Libération, alors moi j'ai été pour l'international, européen, disons, avec les contacts que j'avais en Allemagne ou un peu en Italie. Bon. Donc je faisais ça et. Et à l'intérieur du journal, on a créé une page femme.
Oui.
Et qui correspondait. Parce que la thèse de Julie était vous n'êtes pas des journalistes, vous êtes que l'écho, vous faites l'écho du peuple, hein, vous êtes l'écho du peuple, donc vous êtes là, vous transmettez ce que le peuple vous a enseigné, etc. Bon, c'était l'esprit. Hein. Et en fait, le journal devrait être fait par les ouvriers, par les paysans, etc. Sauf que les paysans, les ouvriers ne venaient pas au journal. Et dans ce même esprit, je disais donc, il devrait être fait aussi par les femmes en lutte. Et les femmes en lutte, enfin, elles venaient au journal tous les mercredis. Et ça crée un peu le bordel. Voilà.
Pourquoi le bordel ?
Parce que donc c'était une présence populaire, enfin de quartier, où des femmes, à l'époque c'était l'avortement, etc. etc. Donc cette grande invitation que Julie avait faite, que enfin c'est pas une tour d'ivoire, là, une rédaction de journal, il faut que ça soit perméable, ouvert, etc. etc. En effet, il y a, tous les mercredis après-midi, il y avait... J'ai invité les femmes qui avaient des choses à dire. Et choses
mais il y avait aussi des femmes du MLF.
Oui, bien sûr, qui venaient. Oui. Tous les mercredis, on avait une réunion et chacune disait ce qui s'était passé dans son quartier, où on était, la méthode Carman à l'époque, c'était ça pour l'avortement, etc. Donc c'était très démocratique.
Et vous avez eu des contacts avec quelques féministes en particulier ou...
Moi j'étais, avec un peu toutes les féministes, mais moi j'étais plus proche d'Antoinette Fouque et le psychanalyse politique.
Ouais. D'accord.
Et donc là, la grande... donc Libre, c'était en 73.
Oui.
Hein, voilà. Donc le journal existait, mais enfin bon, un peu... à peine, et puis c'était... donc ça avait commencé au mois de... d'avril, si ma mémoire est bonne, enfin les luttes chez LIP, et nous on avait décidé de faire un spécial LIP en août 73.
Oui.
Et là, donc ce spécial LIP on l'a fait, donc Libération spécial LIP, et là tout le monde était, enfin il y avait, c'était intéressant parce que c'était un peu là, bon, Pierre Victor qui était le chef des Mao s'était déplacé pas mal. Ceux qui avaient vraiment la parole, c'était plutôt la CFTT, Piaget.
Oui.
Et on était... pour nous, je crois que c'était un bain de compréhension, en tout cas pour moi, quoi. Oui. Enfin, mais je crois que pour les autres aussi. C'est-à-dire, là, par exemple, c'était absolument exclu, vu l'esprit dans lequel ils étaient, de tenter quelque chose qui ressemblerait à une action violente.
Oui.
Voilà. Bon. Donc on était très présents, on a collé les affiches, on a participé aux assemblées générales, etc. Mais c'était moins hystériquement maoïste.
Oui, d'accord. Quoi. Non, je vois. Mais est-ce qu'il y avait un sentiment à l'époque que vous avez passé des années à essayer de faire... de remobiliser les ouvriers, le peuple, et puis maintenant, ils se sont mobilisés sans vous.
Mmh, oui, bien sûr, bien sûr. Et bien mobilisés, hein.
Oui. Dire,
dans une voie qu'on peut appeler moyenne, de négociation, de discussion, de respect du travail, de tradition de cette horlogerie-là.
Oui.
Pour nous, c'était... moi, j'étais... J'étais logé chez un cadre, j'ai oublié son nom. C'était absolument formidable parce qu'on était deux couchés chez lui, dormir chez lui. Et il nous avait cette fierté ouvrière de faire les. Donc, c'était le quartz qui était arrivé là, dans d'utiliser les nouvelles technologies, mais en même temps de ne pas abandonner le travail traditionnel, etc.
Oui.
Etc. C'était vraiment très, très bien, quoi. Et moi, ça m'a réconforté quand j'ai... Enfin, bon, les Allemands, ce qu'on disait tout à l'heure, on avait peut-être plus que ça aurait été de raison, une admiration pour le peuple français, parce que pour nous, le peuple français, il avait résisté aux Allemands, aux nazis.
D'accord.
Et là, j'ai trouvé un échantillon, comme ça, d'ouvriers cultivés.
Oui.
Amoureux de leur travail,
oui.
Respectueux des autres,
oui.
Formidable. Enfin, j'ai beaucoup aimé ça.
Mais est-ce que vous avez eu le sentiment que vous, en tant que maoïste ou militant de libération, que vous avez fait votre travail, ou plutôt qu'ils ont fait votre travail pour vous et que vous n'avez plus rien à faire? Vous n'aviez plus rien à faire.
Enfin, pour moi, c'était au mois d'août, j'étais un peu seul. Moi, oui. Ce que j'avais à faire, c'est ce qui était dans mes moyens. Dans mes moyens, c'était de faire ce numéro spécial Libération.
Oui, d'accord.
Voilà. Donc, d'être, là, on peut dire, plus reporter et journaliste que militant.
D'accord. Et est-ce que vous avez fait un reportage sur le Larzac?
Pas moi, personnellement, mais là, c'était Patrick qui... Il y avait, enfin, dans la rédaction, enfin, à Libération, il y avait des gens qui avaient comme ça leur engagement pour des raisons personnelles aussi.
Hein. Oui, d'accord. Mais pour revenir à vos amis allemands, comment est-ce que vous avez reporté les actions violentes de la bande d'Abadère, etc.
Reporté comment?
Mais vous avez l'impression, en le critiquant, je ne sais pas, parce que vous avez expliqué que vous avez parti, il y a eu une sorte de divergence entre ceux qui ont pris la voie...
L'exil, quoi, oui.
Oui, mais...
Enfin,
vous avez pris la voie Secours Rouge, APL, Libération, plutôt...
Que la lutte armée.
Plutôt que la lutte armée. Mais comment vous avez reporté dans Libération, etc., les gestes, les actions de ceux qui ont choisi la lutte armée Grosso modo, vous étiez d'accord ou vous n'étiez pas d'accord?
Écoutez, c'est pas du tout pour... Enfin, le mieux possible.
Oui. Ouais.
C'est-à-dire, à mon avis, ce qui... Bon, ça, c'est pour ça que j'avais écrit le livre après.
Oui.
J'ai toujours, enfin, dans les réunions, etc., j'ai toujours essayé d'insister sur la particularité allemande.
Oui. Voilà.
Et ce qu'on disait tout à l'heure de la révolte retenu parce qu'il n'y avait pas matière à se révolter contre les parents puisqu'on n'était pas au courant, enfin, etc., etc. De cette et aussi le deuil impossible, donc pour d'autres raisons que les raisons, enfin bon, il y avait quelque chose de un désespoir accumulé,
oui,
qui évidemment ils étaient déjà marginalisés, mais ils ont été aussi tellement rapidement, enfin, diabolisé et marginalisé par la répression policière.
Oui. Et par le public.
Et par le public, oui. Que moi, j'avais une théorie, enfin, assez tôt, qu'ils étaient dans une pulsion de mort, quoi. Voilà. Et la pulsion de mort était plus forte que la pulsion de vie. Et ils se sont mis dans cette spirale pour ne pas continuer à être des enfants de l'Holocauste, quoi. C'est ça ce que je pensais.
Ah, d'accord.
Voilà. Dans cette surenchère du désespoir et de l'explosion violente. Et si on le prend comme ça en termes psychanalytiques,
oui.
Ils avaient perdu la notion du symbolique et par le langage.
Oui.
Alors que bon, c'est triste parce que c'est une. Enfin, moi, j'adore la langue allemande et il y a beaucoup de possibilités de garder une belle langue. Leur langue est devenue une langue de marteau, enfin de hachoir, quoi. Complètement marxiste-léniniste, enfin, sans aucune nuance, etc. Donc, ils étaient mis intellectuellement dans un moule. Et donc, ils avaient, à ce niveau-là, enfin, perdu la notion du symbolique. Et aussi, je pense, j'aurais préféré que ce soit comme le... Par exemple, quand ils ont tué Schleyer.
Oui.
Je pensais que j'aurais préféré que ça soit comme Isaac, vous voyez, que Dieu ne demande pas un sacrifice humain. Hein.
D'accord.
C'est-à-dire, mais donc on peut mettre quelque chose de symbolique à la place du sacrifice. Et c'est comme ça que se fait l'humanité, quoi. Et ils avaient perdu cette notion-là. Bon. Mais écoutez, quand à un âge jeune, vous avez, moi, ça je me rappelle, j'ai vu des choses sur les photos dans la cave de mes parents. Quand on voit les bébés arrachés du ventre des femmes par les nazis, quand on voit les squelettes hein, cumulés, etc., etc. Mais il n'y avait plus de notion de symbolique. Hein. Donc il y avait un héritage de l'absence de dimension symbolique qu'ils ont quasiment continué en miroir. Bon, mais ça, c'est quelque chose qu'ils ne savaient pas. Mais ils étaient un peu en miroir, quoi, avec cette horreur. Bon.
Ils ont répondu à l'horreur par l'horreur.
Voilà. Comme il disait, par exemple, je me rappelle, enfin, Jean-Marcel, elle a tout gardé, moi, j'ai rien gardé, mais c'est le terme, c'était la guerre de l'État contre la guerre, tu vois, la guerre contre la guerre, quoi. Oui. Alors qu'ils étaient peut-être 50. Hein, mais ils pensaient ça, quoi, dans une dualité comme ça d'affrontement.
D'accord. Bon, pour revenir à des choses un peu moins difficiles, votre parcours, vous êtes resté chez Libération jusqu'à quand?
Jusqu'à 75, parce qu'il y a eu, donc on faisait la page femme, etc., c'était bien, dans l'esprit, enfin voilà, révolution culturelle pour faire court, et puis il y a eu la révolution des œillets. Au Portugal.
Oui. Hein,
74.
Ouais. Oui, je pense.
Ouais,
oui.
74. Et ce qu'on lisait dans la presse de cette révolution, ben moi je trouvais ça formidable et on était plusieurs à trouver ça formidable. Et on a demandé à la rédaction en chef d'aller voir. Et la rédaction en chef, à l'époque, trouvait que c'était pas une révolution prolétaire. Donc c'était pas la peine d'y aller. Et on est allé quand même, à deux,
oui.
un journaliste, Pierre Audibert, voilà, il s'appelait, et moi. Donc on est parti à Lisbonne et on a envoyé des papiers de reportage sur ce qui se passait à Lisbonne. On avait rencontré Othello, on avait rencontré enfin, les uns et les autres.
Oui.
Et c'était une belle révolution.
Oui.
Alors, on est resté deux mois, je pense, et on nous a prévenu qu'il y avait une réunion importante à Libération, donc on est rentré, et c'était en 75, oui c'était en 75, donc on était déjà revenu, voilà, et reparti, parce que ça durait quand même un petit moment, et là je me rappelle, bon, Dany était venu, Glucksmann, enfin bon, il y avait des gens qui quand même, ont trouvé, c'était...
À Lisbonne.
Un événement important. Et au deuxième retour, il y avait cette réunion, et ça, c'était la première scission, enfin, dans Libération, où on était six ou sept à partir.
Parce qu'ils avaient mal compris la révolution.
Ils nous ont demandé une autocritique, trouvaient que nos papiers étaient trop complaisants, avec les militaires, enfin bon, des choses comme ça. Enfin, en tout cas, bon, voilà, ça on n'était pas contents. Et d'autres n'étaient pas contents pour d'autres raisons. Donc, il y avait, bon, ce qui arrive toujours, il y avait des conflits internes et ça s'est soldé par une démission d'une partie de l'équipe. Mais pas seulement pour la question de.
D'accord.
De révolution des œillets. Il y avait d'autres raisons de
pouvoir, de trucs. Une question de.
De pouvoir interne.
Enfin, oui, d'accord.
Des choses. Répétitif, quoi.
On dit de temps en temps que c'était un milieu un peu macho là-dedans.
Ah oui, mais il y avait ça aussi. C'est pour ça qu'on était... Moi, j'avais déjà envie de claquer la porte à un moment donné. On avait fait une rubrique, vous vous rappelez, à cette époque, c'était Benoît Croutz qui commençait à vouloir faire un dictionnaire de féminin, quoi.
Oui.
Et on commençait à savoir lire, disons, enfin des, où il y avait du machisme à l'intérieur du langage. Et donc ça s'appelait des insultes sexistes, bon, donc qui étaient relevées dans la publicité, qui étaient relevées, etc.
Oui.
Et nous, on avait publié qu'on avait une rubrique des insultes sexistes, donc il y avait chaque semaine. Et puis on avait décidé de faire aussi une rubrique insultes sexistes à l'intérieur de Libération. Donc,
je vois.
Recueilli un certain nombre, et alors là, ça, ils n'étaient pas contents. Et il y a eu un moment où le maquettiste, quand il a fait la maquette de cela, qui était un petit passé, il a voulu me casser la gueule. Alors je dis, il faut appeler le patron, c'était Julie. Et bon, c'est parti en queue de boudin, quoi. Voilà.
Et par la suite, vous avez continué dans le monde de l'édition, du journalisme?
Alors ensuite, j'avais envie de faire un retour à la faculté.
Oui.
Donc je suis retourné à Vincennes et j'ai commencé à travailler avec Hélène Sixous.
Ah ouais, d'accord.
Qui avait créé donc le département études féminines. Et ça m'avait beaucoup... intéressé, parce que d'abord c'est quelqu'un que j'estime énormément.
Oui.
Et donc Hélène, elle faisait à sa manière en fait une relecture des œuvres et de fiction et des documents et de psychanalyse, etc., sous le regard comment se manifeste la différence sexuelle, enfin grosso modo. Hein, bon.
Oui.
Donc je suis resté avec elle, j'ai travaillé avec elle pendant 3 ans. Ouais, jusqu'en 78.
Vous avez publié des choses ou...
Oui, oui, j'ai pu, enfin, dans les revues allemandes.
Oui.
J'avais fait des choses. Alors, elle, c'était aussi le moment de l'écriture féminine. Hein. Donc, elle avait incité un peu tout le monde à dire que pour les femmes, c'est important d'écrire. Et j'avais déjà écrit un roman en allemand, mais que j'ai pas réussi à publier, enfin, en 73, quelque chose comme ça. Et là, j'ai commencé à écrire en français, un peu sous son inspiration, on peut dire. Hein.
Oui.
Et en fait, c'est là que les passages un peu poétiques, disons, dans Mourir d'absence, sont nés.
D'accord.
Voilà. Et ça m'a, d'être là, dans ce contexte-là, ça m'a d'abord, c'est pour ça que je lui suis reconnaissante énormément, parce qu'elle avait vraiment une façon de lire un texte de près. Ça m'a toujours servi depuis,
oui, enfin,
dans mon métier.
Oui.
Et ça m'a donné aussi un rapport à l'écriture, enfin ma propre écriture, et que c'était quelque chose qui était un peu enseveli, mais je crois que tout le monde était un peu d'accord qu'on avait besoin d'un petit bain d'intelligence après toutes ces années de militantisme. Donc mon bain d'intelligence là, c'était les cours avec Hélène.
Et quand vous avez publié Mourir d'absence, cet homme de fer, l'amant juif, c'est une invention?
Non.
C'est pas une invention?
Non.
Parce que longtemps j'ai cru que c'était vrai, puis à un moment donné vous dites c'est une invention.
Mais c'était une réalité mise en fiction.
D'accord. Et c'était pour retravailler cette question de...
Oui, c'est ça. Oui,
de rapport
la
Shoah,
quoi.
De la responsabilité allemande.
Oui. Il faut dire que c'était un... Bon, ça, c'était une sorte de... comment dire, apprentissage par la chair, enfin, enfin par le corps, c'est pas la chair, enfin, dans son propre corps, ce que ça a pu être comme souffrance et difficulté de communication entre les Juifs et les Allemands, enfin, avec André et puis avec Robert aussi, enfin, des gens qui ne pouvaient pas du tout retourner en Allemagne.
Oui.
Comme j'avais un aveu comme ça de culpabilité. Après, évidemment, les Allemands, ils ont fait un formidable travail. Mais à l'époque, c'était assez nouveau. Rendu possible quelque chose qui de par l'histoire, ne l'était plus. Quoi. Donc c'était un peu ça. Et puis c'était aussi, on était sous le choc de Stammheim à ce moment-là.
Oui. Est-ce que pour vous, il y a eu une réconciliation avec l'Allemagne, avec les parents, avec l'histoire de l'Allemagne? Parce que je note,
oui,
que au
oui,
début de chaque chapitre, vous citez en allemand,
oui,
des poètes, des grands,
oui,
poètes,
ça,
des écrivains
allemands. Ça, c'est quelque chose qui me plaît encore aujourd'hui. Je n'ai jamais relu, mais C'était, ça, c'était vraiment un très joli moment. Parce qu'à l'époque, je ne parlais plus allemand. Je ne voulais plus parler allemand.
Ouais.
J'avais pendant 6 ans à peu près. Sauf quand j'allais en Allemagne. Mais en Allemagne, je me faisais passer pour une Française. J'avais vraiment quelque chose, enfin un rejet.
Oui.
Jusque dans la langue. Et quand je... J'étais à Bayreuth, là, pour l'opéra de Wagner, avec Poulez et Chéreau, là, c'était cette époque-là, donc 77.
Oui.
Et j'avais, ou nous 78, je suis allé 2 années de suite, et j'avais les épreuves de mourir d'absence.
D'accord.
Et sur les épreuves, il n'y avait pas ça. Et tout d'un coup, une après-midi, parce qu'autrefois, j'aimais beaucoup, c'est encore maintenant, apprendre des poésies par cœur, etc. Une après-midi, je me suis mise à comment rendre, enfin ouvrir ma mémoire, quoi. Et c'est des phrases, j'ai pas vérifié une seule, ah, mais elles sont toutes correctes.
Oui.
Et c'était mon inconscient allemand, en fait. Vraiment,
ouais,
c'était le condensé de mon inconscient allemand qui s'est exprimé là, donc mes plus chers poètes. Et,
oui.
Voilà.
Oui.
Et après, j'ai retrouvé la langue allemande et avec beaucoup de plaisir.
D'accord.
Mais c'était il y avait 6 ans de boycott.
Parce que vous, pendant ce temps-là, vous n'êtes pas rentré en Allemagne. Enfin, sauf
pour des
visites militantes, bien sûr, mais pour aller voir vos parents ou...
Oui, pour voir mes parents. Mes parents, c'était évident qu'il fallait les voir. Enfin, je travaillais pour un éditeur allemand, là, à Berlin, Wagenbach, où j'allais, on est tellement politiquement sur la même longueur d'onde, donc ça allait. Avec des gens qui étaient complètement dans la même sensibilité, le même horizon. Mais la quotidienneté allemande, le peuple allemand, le métro, machin, etc. Ou les bus, enfin, ça, je ne supporte pas.
D'accord.
L'allemand commun, quoi. Voilà. Mais ça, c'est revenu. À cette époque-là.
À cette époque-là, c'est bien. Alors, deux petites questions de plus. Sur votre parcours personnel, parce que vous avez vécu en communauté, est-ce qu'à un certain moment vous êtes revenu à la vie plus bourgeoise
Oui, maintenant oui.
Oui, je vois. Mais à quel moment, si je te demandais
Alors, on a vécu en communauté. Donc, on avait créé une communauté allemande, de femmes allemandes. Enfin, c'était l'initiative. C'était deux copines, Dorothée, Anna et moi. On avait trouvé un appartement rue Franche-Comté, où il y avait 1, 2, 3, 4, il y avait 5 pièces, une cuisine commune, et on était 5, donc 2 Françaises et 3 Allemandes, voilà, dans cette communauté.
C'était à quel moment, ça?
Et c'était donc après le départ de Libération, donc en 75, jusqu'à... 79, quand même, hein?
Oui.
4 ans. Après, j'ai vécu avec une amie pendant 2 ans. Alors ça, c'était plus une communauté. Et après, j'ai connu mon mari.
D'accord.
Mais j'avais déjà été mariée une fois avant, hein, avec un Français qui d'ailleurs a partagé cette... petite communauté avec Jean-Marcel Boucrot et
Remange.
C'était mon premier mari.
D'accord.
Oh, j'ai complètement oublié le café là.
On a pour deux minutes.
Tu ne peux pas nous donner un café, Georges, dans une tasse, ce sera formidable.
Donc la dernière question, quand vous revisitez cette période-là, fin des années 60, début des années 70, de maintenant, quels sont vos sentiments? De joie, de peine, c'est une période d'apprentissage ou d'éveil, ou comment vous voyez cette période-là pour vous?
Il y a l'émotion d'intensité, ça c'est sûr.
Oui.
Et peut-être quelque chose en moi cherche l'intensité, parce que quand j'étais tellement horrifié par l'idée de passer le reste de ma vie comme professeur j'ai une curiosité, donc probablement j'ai cherché des choses intenses. J'ai un fort sentiment de l'injustice.
Oui.
Que j'ai complètement gardé, donc aujourd'hui, de la même façon, quand j'ai envie de me mobiliser, quand j'ai l'impression qu'il y a une très grande injustice qui est faite. Comme au Tibet, par exemple. Mais enfin, bon, voilà.
Oui.
Donc ça, c'est quelque chose qui reste, qui est parfaitement intact. Ce qui est peut-être narcissiquement agréable, c'est que c'est une génération qui ne sait, qui a partagé les choses et qui ne s'est pas perdu de vue. Enfin, pour moi, c'est évident que c'était une famille collective, quoi. C'était quelque chose qui, comme j'avais pas de liens familiaux, enfin, en France.
Oui.
En fait, j'avais des liens d'amitié qui étaient quasiment familiaux, quoi, voilà.
Oui.
Et que ces gens-là, enfin, qui ont tous vécu de la même façon, je suis assez attendri quand, justement, enfin bon, quand il se passe quelque chose de grave, comme le Tibet, etc., il suffit de passer un coup de téléphone et c'est bon. Ouais. C'est bien.
Oui, c'est très bien.
Ouais.
Bon, merci, je vous remercie. On a très bien travaillé. Merci infiniment.